Chapitre 3, Saladin monte à l'assaut et fait un roman. Il y a dans la vie des choses absurdes qui doivent réussir, de même qu'il y a dans l'art des œuvres très méprisables dont le succès est forcé. Pour juger ceci et cela, il faut se placer à de certains points de vue. Le roman est entré dans nos mœurs bien plus profondément qu'on ne le pense, ceci pour le commun des hommes et des femmes. Pour ceux ou pour celles qui souffrent d'une grande blessure, la vie même devient un roman. Et si cette blessure, au point de vue des douleurs qu'elle occasionne, comme au point de vue des espoirs de guérison qu'elle laisse, touche par quelque côté au domaine exploité habituellement par les conteurs, l'invasion du roman dans la vie passe à l'état de tyrannie absolue. Les contes, en effet, partent presque toujours d'un fait véritable, et pour ne point abandonner le sujet même de notre récit, il est certain, malheureusement, que l'enlèvement d'un enfant n'est pas une circonstance très exceptionnelle. Parti du fait fondamental et vrai, le romancier en tire des conséquences à sa guise, et c'est là que commence le roman. C'est-à-dire, pour beaucoup de gens, le mensonge, pour d'autres, la déduction logique des événements. Nous ne craignons pas de dire que l'imagination, blessée de toute mère à qui on a ravi son enfant, invente en une semaine plus de romans que l'habileté du plus fécond romancier n'en saurait trouver en 10 années. Madame de Chavès reçut, le soir même par la poste, la lettre de la somnambule. Il y avait en elle en ce moment une inquiétude qui se rapportait à un danger tout personnel. Madame de Chavès, nous le savons, n'ignorait rien de la sauvage et bizarre nature de son mari. Elle connaissait, vaguement, mais suffisamment, l'histoire de celle qui, avant elle, avait porté ce titre et ce nom, Duchesse de Chavès. Elle lut la lettre au milieu d'une certaine préoccupation, non point qu'elle eût peur, car elle était brave, comme toutes celles qui ont terriblement souffert, mais parce qu'elle tenait, comme d'autres s'accrochent au dernier amour, à la faible espérance qui était désormais toute sa vie. Car telle, nous l'avons vue autrefois dans la chambrette de la rue Lacuée, à genoux devant le berceau vide de petites reines, telle Lily était restée après tant de temps écoulé. Sa fille, il n'y avait en elle que sa fille. En dehors de ses regrets et de ses espoirs qui avaient sa fille pour objet, vous eussiez trouvé dans sa poitrine le cœur d'une morte. Elle jeta la lettre qu'on lui avait apportée dans sa chambre à coucher et se reprit à songer à cette rencontre bizarre. Monsieur le duc de Chavès, cet homme sombre et froid, montant les degrés qui conduisaient à un théâtre forain. C'était fort surprenant, mais... En somme, la conduite de monsieur le duc intéressait Lily médiocrement, et ce qui lui restait de cette aventure, c'était le singulier regard que monsieur de Chavès avait jeté sur elle. Monsieur de Chavès était à Paris, quoiqu'il eût annoncé hautement son départ, et monsieur de Chavès, avant son absence, lui avait fait comprendre, avec douceur et courtoisie, que les assiduités du jeune Hector de Sabran pouvaient présenter un danger. S'il était une femme au monde dans l'existence de laquelle le roman déborda, c'était assurément Madame de Chavès. Depuis l'heure de sa naissance, en quelque sorte, le roman ne l'avait jamais quittée, quoiqu'il n'y eût pas un atome de tendance romanesque dans son esprit ni dans son cœur. Elle avait passé au milieu de tout cela, portée par les événements, et n'avait jamais eu qu'une passion profonde, son amour pour sa fille. Justin lui-même ne lui laissait qu'un souvenir doux et tranquille. Mais le roman la pressait en toutes parts, et en ce qui regardait sa position vis-à-vis de son mari demi-sauvage, c'était un roman bien connu, une légende, un conte d'enfant, l'histoire de Barbe Bleue. Monsieur le duc n'était pas homme à chercher des intrigues subtiles, il aimait avec une brutalité folle. Lily avait la conviction qu'il s'était débarrassé de sa première femme pour l'épouser, elle, Lily. Elle pensait, tout en se disant, « C'est impossible qu'il pourrait prendre le même moyen pour épouser une autre femme. » Elle ne l'avait jamais aimé. Elle avait pour lui la répugnance terrifiée des enfants prisonniers de l'ogre. Elle s'était résignée à cette torture de vivre près d'un pareil homme parce qu'elle avait vu dans ce sacrifice le moyen de retrouver Justine. Elle l'eût fait plus encore si une épreuve plus dure se fût présentée à elle. Du reste, monsieur le duc de Chavès l'avait aimée passionnément pendant plusieurs années, et jusqu'à ces derniers temps elle avait gardé sur lui un remarquable empire. Il était fier de sa beauté. Il éprouvait à chaque instant de ces mouvements de jalousie qui enchaînent, et pour le garder esclave, Lily, soutenue par la pensée qu'elle travaillait pour sa fille, avait parfois surmonté un sentiment qui était plus que de la froideur. Le duc alors redevenait l'amant agenouillé des premiers jours. Au bois et dans les fêtes de la haute vie, en voyant passer cette femme si noblement fière, souriante et en apparence heureuse d'être partout la reine de beauté, vous n'eussiez jamais deviné la plaie incurable de son âme. Monsieur le duc de Chavès, de son côté, avait accompli loyalement au moins une partie du pacte conclu. Sa fortune avait toujours été à la disposition de Lily dès qu'il s'était agi de chercher Petite Reine. Il n'avait menti qu'une fois, quand il avait donné à penser à la jeune mère que sa fille était partie pour l'Amérique. Et s'il avait menti, c'était pour emporter l'objet de sa passion comme une proie. Lily, seule dans sa chambre, repassait en elle-même ces événements lointains, mais la lettre mystérieuse, à son insu, prenait déjà sa pensée. Souvenons-nous que, même avant d'avoir reçu cette lettre, elle avait dit à Hector, superstitieuse comme tous les martyrs, « Si cette somnambule retrouvait le bracelet, elle pourrait aussi retrouver l'enfant. » La lettre était sur la table de nuit. Madame la duchesse de Chavès se prit à la regarder. Matériellement, cette lettre sentait l'endroit d'où elle venait. C'était un papier grossièrement parfumé, dans une enveloppe timbrée avec prétention. Madame de Chavès la prit et la relut. Elle fut frappée, ou plutôt blessée, par la niaise emphase de son contenu. Ces phrases, coupées avec une majesté sibylline, lui sautèrent aux yeux comme une ridicule mystification. Et pourtant, elle la relut, non pas une fois, mais 10 fois. Le roman, stupide ou non, la menace qu'on ne comprend pas, la promesse mystérieuse. Je ne sais pas d'homme au monde qui puisse recevoir sans émotion la prière de passer chez un notaire inconnu. C'est là le roman, c'est là son prestige, c'est là ce qui mène les 3/4 de la vie des 3/4 d'entre nous. Et si je voulais aller au fond des choses, je dirais que quand le roman entre une fois dans la vie, plus il est absurde, plus il devient entraînant. D'ailleurs, il y avait quelque chose dans cette lettre. On avait découvert le nom de Madame de Chavès et son adresse, qu'elle avait cru tenir cachée. On avait retrouvé le bracelet. On avait fait bien plus. On avait deviné, et c'était magie, la secrète préoccupation de son cœur. Car cet objet, plus cher et plus cruellement regretté, auquel on faisait allusion, que pouvait-il être, sinon sa fille elle-même? Elle se mit au lit en songeant à la lettre. Elle voulut s'endormir. La lettre la poursuivit comme une tyrannie. Et, chose singulière, parmi les énigmes que la lettre proposait, les plus obsédantes pour sa pensée n'étaient pas celles dont l'exposé, du moins, se comprenait. Son adresse devinée, le bracelet retrouvé, l'allusion faite au sort de sa fille, tout cela s'évanouit peu à peu pour céder la place à ce problème, idiot dans ses termes, monsieur le marquis de Rosenthal, se présentant à l'hôtel sous le nom de Renaud, ancien employé de la police. De bonne heure, Lily se leva. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Avant 8 heures, elle était assise dans son boudoir, impatiente déjà et trouvant que monsieur le marquis de Rosenthal tardait. Elle avait donné l'ordre exprès d'introduire auprès d'elle monsieur Renaud aussitôt qu'il se présenterait. Demi-cachée derrière ses rideaux, elle interrogeait la cour et guettait la porte cochère. Enfin, quelques minutes avant 9 heures, la porte s'ouvrit et un jeune homme vêtu de noir se dirigea vers la conciergerie. Le concierge, après l'avoir écouté, le conduisit lui-même jusqu'au perron. Lily put l'examiner à son aise, tandis qu'il traversait la cour d'un pas lent et solennel. C'était un étudiant allemand, non pas précisément tel qu'on les voit à Leipzig ou Tübingen, mais tel que les théâtres nous les montrent quand ils font de la couleur locale. Bottes molles, pantalon noir collant, veste et jaquette noire surmontées par un vaste col blanc et rabattu. Seule la casquette traditionnelle était remplacée par un chapeau tyrolien à larges bords, d'où s'échappaient les mèches abondantes illustrées d'une chevelure noire. Lily avait vaguement l'espoir de trouver en ce nouvel arrivant une figure connue, mais elle dut s'avouer qu'elle ne l'avait jamais vue. L'instant d'après, un domestique annonça Monsieur Renaud, et Saladin fit son entrée dans le boudoir de Madame la Duchesse. Celle-ci se leva pour le recevoir. Il salua, non point très bas, et dit en fixant sur elle ses yeux ronds qui la troublèrent, « Voilà bien des années que je m'occupe de vous. » Il avait en parlant un léger accent tudesque. Madame de Chavès ne trouva pas de réponse. Elle le regardait avec une sorte de frayeur. Et Saladin eut un sourire de froide bonté. « Je ne vous veux que du bien, hein, » prononça-t-il du bout des lèvres. La duchesse lui montra de la main un siège et dit tout bas, « Je vous en prie, monsieur, apprenez-moi ce que je puis espérer de vous. » Saladin croisa ses bras sur sa poitrine. Il était superbe d'aplomb et de gravité. Il avait passé la nuit à composer son rôle, à l'apprendre et à le répéter. Languedoc, déniché à la foire par Similor, était venu lui faire une tête de marbre, immobile et glacée. Si Saladin avait su le monde, peut-être aurait-il reculé devant l'audacieuse comédie qu'il allait jouer, peut-être du moins aurait-il choisi d'autres moyens et pris d'autres apparences. Sans prétendre qu'un autre stratagème n'eût point réussi auprès de cette pauvre femme, subjuguée d'avance et préparée à toutes les crédulités, nous affirmons que Saladin avait bien choisi son personnage. Nous ajoutons que les comédies de ce genre arrivent au succès, surtout par leurs côtés les plus invraisemblables. Les charlatans sauvent parfois ceux que la médecine sérieuse a condamnés. Il en est ainsi dans la vie, et certains découragements se réfugient d'eux-mêmes dans l'impossible. Chaque siècle, du reste, subit pour un peu l'influence de la poésie ambiante, ceci du haut en bas de l'échelle sociale. On est bien forcé de prendre le merveilleux où les poètes l'ont mis. Les sorciers du Moyen-Âge, succédant aux oracles antiques, se chargeaient de répondre aux questions de l'ambition effrénée ou de l'aveugle désespoir. Le XVIIIe siècle inventa les magnétiseurs et but en riant l'élixir de vie distillé par le comte de Cagliostro. Nous avons eu de nos jours les médiums et les tables tournantes. C'est là le merveilleux pur, le surnaturel franchement inexplicable. Mais le merveilleux poétique est autrement fait. C'est la baguette des fées, ce sont les miracles obtenus par la lance des chevaliers, ou bien ce sont les prouesses encore plus étonnantes accomplies par l'épée de D'Artagnan, par l'or de Monte-Cristo. On ne croit pas à tout cela, je veux bien, mais il en reste quelque chose. D'Artagnan mourut il y a longtemps. Depuis Monte-Cristo, Jupiter en habit noir qui lançait les billets de banque comme la foudre, on a été chercher le merveilleux plus bas encore, beaucoup plus bas. Quelques-uns ont choisi des assassins et des voleurs pour les revêtir de je ne sais quels oripeaux magiques. D'autres, moins fous et plus hardis, ont osé prendre cette personnalité détestée et méprisée, l'agent de police, pour l'entourer de rayons sur l'effronté piédestal de leur fiction. On pêche ces héros où l'on peut, dans les temps de disette avérée. Il y a quelque chose d'original et à la fois de généreux à préférer les gendarmes aux voleurs en un pays comme la France, assez spirituel pour siffler toujours les gendarmes en applaudissant fidèlement les voleurs. Je ne puis que louer de tout mon cœur les hommes de grand talent qui se sont donné la mission de réhabiliter l'agent de police. Il était temps de flétrir l'innocence incurable du suffrage universel, se faisant le complice des meurtriers et des filous, pour accabler ces modestes soldats qui gardent vaillamment le repos de nos nuits, et non pas même pour compenser la dérisoire modicité de leur paix, la pointe de la considération publique. Mais entre les réhabilitations équitables et les fusées d'une complète apothéose, il y a de la marge, et peut-être n'était-il pas nécessaire de remplacer le chapeau que messieurs les inspecteurs de la sûreté portent dans la vie réelle par une trop fulgurante auréole. Pour plaire, nous sera-t-il répondu, il faut exagérer dans un sens ou dans l'autre. Ceux qui disent cela mentent, insultant à la fois les écrivains et le public. ma religion est qu'on peut plaire en disant l'exacte vérité. Ma croyance est que nous heurtons tous les jours sur le trottoir des réalités bien autrement curieuses et bizarres que n'en peut inventer l'exagération même de ceux qui se battent les flancs pour étonner les naïfs. Et Saladin, comédien de petite venue, mais très soigneux et très habile, profitait tout uniment d'un courant. Il exploitait la mode du détective. Après avoir examiné la duchesse, le temps voulu pour produire son effet, il prit le siège qu'on lui indiquait et tira de sa poche un assez vaste portefeuille, en même temps qu'un objet enveloppé dans du papier qu'il remit entre les mains de Madame de Chavès. « Voici d'abord le bracelet de petite reine, » dit-il. La duchesse, à ce nom, devint pâle comme une morte. Le tonnerre éclatant dans la chambre n'eut pas produit sur elle un pareil effet. Elle chancela sur son siège et murmura, « Quoi, monsieur, vous savez ?»« Je suis Renaud, » répondit Saladin d'une voix basse et brève. Il se mit en même temps à feuilleter rapidement son carnet. « Rue Lacuée, numéro 5, » dit-il en prenant un premier carré de papier. « Madame Lily, dite la Gloriette, 18 à 20 ans, très jolie, conduite bonne, enfant dont on ne connaît pas le père. Nom de l'enfant, Justine, mais plus souvent appelée Petite Reine dans le quartier. Contestez-vous ? » La duchesse le regardait, bouche béante. « Vous ne contestez pas, » reprit Saladin, « c'est exact. » Il choisit un autre carré de papier. « Fin avril 1852, » reprit-il, « mère et fille entrent dans une baraque de foire, place du Trône, voiture prise à cause de la pluie. » Madame de Chavès l'interrompit par un cri de stupéfaction. « Quoi ? Même ces détails ? » balbutia-t-elle. Saladin lui imposa silence d'un signe de tête. « Je suis Renaud, » répéta-t-il pour la seconde fois, et il ajouta de sa voix glacée qui n'avait point d'inflexion, « Voiture procurée par un jeune garçon à valeur de sabre de son état, 14 ans, nom Saladin. » Il changea de carré de papier. « Journée du lendemain très chargée, faits principaux, départ de la jeune mère pour Versailles, petite reine confiée à une femme nommée La Noblet et portant aussi le sobriquet de La Bergère, dont le métier était de promener des enfants pauvres au jardin des plantes. Le nommé Médor, aide de la femme Noblet, laisse approcher des enfants une sorte de mendiante qui cache sa figure sous un vieux bonnet à voile bleue, homme déguisé. Ce même jeune garçon qui avait procuré la voiture la veille au soir. « Êtes-vous sûr de cela ? » s'écria Lily qui haletait. « Je suis sûr de tout ce que je dis, » répondit sèchement Saladin. « J'ai interrogé moi-même le jeune garçon, qui est maintenant un homme. « Mais ma fille !» fit la duchesse avec explosion. « Ma fille est-elle vivante ?» Saladin jeta son carré de papier et sembla faire un choix parmi ceux qui restaient dans son carnet. Vous n'avez pas encore regardé si le petit bracelet est bien le vôtre, dit-il tranquillement. C'était vrai. Les mains tremblantes de Madame de Chavès déplièrent l'enveloppe. C'est lui, s'écria-t-elle, en portant le bracelet à ses lèvres. C'est bien lui. Et ma fille. Permettez, madame, interrompit Saladin, ne nous égarons pas. Petite reine avait deux bracelets semblables, un que vous possédiez, un autre qu'elle avait emporté. Et celui-là, c'est celui qu'avait emporté, petite reine. Lily tendit ses mains jointes qui tremblaient. Alors elle vit, balbutia-t-elle, elle vit, car vous n'auriez pas voulu vous jouer ainsi du cœur d'une mère. Les yeux ronds et fixes de Saladin se relevèrent sur elle. Procédons par ordre, s'il vous plaît, fit-il d'un ton d'autorité. Quand il sera temps, nous arriverons à ce qui regarde madame votre fille. L'instant d'auparavant, Madame de Chavès n'aurait pas cru que son étonnement pût augmenter, mais elle bondit sur son siège à ces derniers mots prononcés par Saladin, « Madame, votre fille !»« Ma fille » s'écria-t-elle, « mariée, mais c'est une enfant !» Puis, retournée subitement par la grande joie qui envahissait son cœur, elle ajouta d'une voix tremblante, « Elle vit donc, puisqu'elle est mariée. Oh, qu'importe cela, qu'importe tout le reste, monsieur. Monsieur, demandez-moi ce que vous voudrez, ma fortune, mon sang, mais dites-moi quand je verrai ma fille. » Saladin lui adressa le signe que les pédagogues font aux enfants pour réclamer le silence. Procédons par ordre, répéta-t-il, après avoir trouvé dans son carnet le carré de papier qu'il cherchait. Jusqu'à présent, vous ne contestez pas. Tout ce que vous avez dit, répliqua Lily, qui le suppliait du regard, est la vérité même, et il a fallu un miracle d'habileté. Je suis Renaud, dit pour la troisième fois Saladin. Monsieur le duc de Chavès, continua-t-il, reprenant la lecture de ses notes, grand de Portugal de première classe, chargé d'une mission particulière de l'empereur du Brésil, mêlé à tout cela indirectement, était à la représentation de la foire, était au jardin des plantes, offrit des primes en argent à la police de Paris, détermina la gloriette à partir avec lui pour l'Amérique. Lacune. Vous remplirez les lacunes, s'interrompit ici Saladin. C'est nécessaire pour ma gouverne. En même temps, il feuilleta rapidement son carnet et arriva jusqu'aux dernières pages où il prit un carré qui contenait seulement ces mots. Lacune. Retour en France. Duc marié à la Gloriette. Voyage dans les départements. Enfin, un dernier papier disait « Soupçon, fausse absence du dit monsieur de Chavès, aujourd'hui 19 août 1866, monsieur de Chavès revenu discrètement pour surprendre sa femme, embuscade. »« C'était hier, » murmura la duchesse. Saladin poursuivit sans répondre. La voit partir à cheval avec le jeune comte Hector de Sabran, grand hôtel, chambre 38. La duchesse était muette de stupeur. Saladin ferma brusquement son carnet. « Je vous prie, dit-il, de compléter brièvement et clairement ce qui concerne monsieur le duc de Chavès. Quand vous connaîtrez mieux la position où je suis vis-à-vis de vous, vous comprendrez que ma conduite dans toute cette affaire doit être dirigée par les renseignements les plus positifs. » Saladin rapprocha son siège, mouilla le bout d'une mine de plomb et fixa un carré de papier sur la couverture de son carnet en homme qui va prendre des notes. Le premier instinct de la duchesse fut d'obéir tout de suite et aveuglément. Aucun doute n'était en elle. On peut dire qu'elle était émerveillée et subjuguée. Si elle hésita, ce fut pour se recueillir en interrogeant sa mémoire. « Y sommes-nous ? » demanda Saladin d'un ton impatient. Le temps est non seulement de l'argent, mais encore de la vie. J'attends. » Les yeux de la duchesse évitèrent les siens parce que la pensée de monsieur de Chavès venait de traverser son esprit. « Comment ignorez-vous une partie de la vérité, murmura-t-elle, vous qui avez appris des choses si difficiles à connaître ?» Saladin eut un sourire. « Ah, nous voilà qui raisonnons, dit-il. Je veux bien raisonner, pourvu que cela ne dure pas plus de 3 minutes. Je sais les choses que j'ai cherché à savoir, et ces choses-là n'étaient pas les plus faciles à deviner. Quant au reste, j'ai épargné ma peine parce que j'avais la certitude de tout apprendre par vous. » « Si je ne pouvais... » commença la duchesse. « Vous pouvez, » interrompit Saladin, « puisque c'est votre propre histoire, et il est impossible qu'aucune force humaine enchaîne votre langue quand je vous dis « je veux que vous parliez ». La duchesse dit après un silence. « C'est mon histoire en effet, mais c'est aussi l'histoire d'un autre. Ai-je le droit de révéler un secret qui ne m'appartient pas ?» Saladin croisa ses bras sur sa poitrine. « C'est le secret de l'autre que je veux connaître, dit-il, et c'est l'autre qui est le maître ici. C'est de l'autre que dépend le sort de votre fille. Et vous êtes trop mère pour ne pas comprendre que le sort de votre fille seul m'intéresse. »«
Elle sera heureuse !» s'écria madame de Chavès.
Elle allait poursuivre. Saladin ne la laissa pas achever. « Auriez-vous défiance ? » demanda-t-il avec une dignité sobre qui prouvait son vrai talent de comédien.
« J'ai peur, » murmura la duchesse.
« De moi ? » ?»«
Non, de lui. »
La duchesse, en prononçant ces derniers mots, appuya son mouchoir sur ses lèvres, comme si elle eût voulu se bâillonner elle-même. Le visage de Saladin changea, exprimant pour la première fois une nuance qui n'était point dans son rôle. Son regard eut de l'étonnement et de la contrariété. « Ne vous aime-t-il pas en esclave ? » demanda-t-il.
« Il m'a aimé, » répondit tout bas madame de Chavès. La main de Saladin se posa sur son bras. « J'ai besoin de tout savoir, » dit-il, en faisant son accent impérieux, « non pas pour moi, mais pour elle. »«
Pour elle ?» répéta la duchesse, dont la voix chevrotait et brisée par les larmes. « Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai souffert depuis tant d'années, croyez-vous donc que ce ne soit pas pour elle ? Les livres et les hommes disent, avec le temps, on oublie. Le temps a passé, je n'ai rien oublié. » En ce moment où Dieu fait luire à mes regards un espoir qui m'éblouit le cœur, il me semble que je deviens folle. Je vous crois, tout ce que vous dites est vrai, mais se peut-il que j'aie jamais cette joie de sentir ma fille dans mes bras et d'avoir son front sous mes lèvres? J'ai vécu pour cela, uniquement pour cela. Sans cela, je n'aurais même pas eu besoin d'aller au-devant de la mort m'aurait prise bien vite. J'ai travaillé, j'ai combattu, j'ai espéré, en dépit même du désespoir qui me torturait là, mais maintenant tout s'éclaire à la fois, à l'improviste. Hier, il n'y avait autour de moi que ténèbres, et j'aurais donné mon sang pour connaître la route où elle passa tel jour de tel mois, il y a 10 ans, que sais-je, pour deviner un rien, pour acquérir le plus vague de tous les indices. Au lieu de cela, c'est une certitude. Dieu m'accable d'un si grand bonheur que ma raison se refuse à le comprendre. Mais voilà, vous, un inconnu, vous venez à moi par une porte mystérieuse qui fait songer au miracle. Vous me dites ce qui s'est passé exactement, minutieusement, comme si vous racontiez une page d'histoire. Les noms de l'enfant, vous me les répétez, les faits les plus indifférents, vous les avez recueillis, et il semblerait que vous étiez autour de nous, voici 14 ans, depuis l'heure malheureuse où j'entrais dans la cabane des saltimbanques avec ma chère petite, jusqu'au moment plus cruel où elle me fut enlevée. Je sais qu'il y a des merveilles dans cet art de tout savoir et de tout deviner. Je sais que l'œil de la police perce les ténèbres les plus épaisses, mais au nom du ciel, ne vous fâchez pas contre moi, je suis une pauvre femme bien faible et bien ébranlée. L'habileté qui sert à découvrir peut aussi servir à tromper. Oh, pitié, pitié, s'interrompit-elle, je n'ai pas voulu vous offenser, monsieur.
Madame, prononça froidement Saladin, « j'ai pitié, mais vous ne m'avez pas offensé. Il faut, aux grandes émotions de la femme, un calmant, la plainte ou les larmes. Les minutes sont précieuses pour moi, et cependant je ne vous ai pas interrompu. D'autres l'eussent fait à ma place, madame, car je suis maître absolu de la situation. J'ai des droits, et vous l'avez bien deviné, quoiqu'aucune allusion à ce sujet ne soit tombée de votre bouche. J'ai des droits égaux, supérieurs même à ceux d'une mère. » Un effroi mortel où il y avait de la haine se peignit sur les traits de Lily, qui baissa les yeux vivement. Saladin vit et comprit. « Cela devait être, prononça-t-il à voix basse. Si nous ne sommes pas unis par le plus tendre de tous les sentiments, le lien filial, nous serions des ennemis irréconciliables. »«
Vous êtes le mari de ma fille, » balbutia la duchesse sans relever les yeux.
La physionomie de Saladin exprimait en ce moment une nuance d'embarras. Peut-être n'eût-il point voulu abattre sitôt cette grosse carte qui était un des principaux atouts de son jeu. Certes, il avait fait ce qu'il avait pu pour que ce mensonge sautât aux yeux comme l'évidence, mais il aurait voulu choisir son heure et profiter à son gré de l'effet produit. « Madame, dit-il en changeant de ton, dans notre intérêt à tous les trois, et il souligna ce chiffre, je devrais montrer plus de fermeté, mais je suis gentilhomme, et pour la première fois depuis bien longtemps, je ressens, comme au jour de ma jeunesse, la faiblesse du gentilhomme en face des larmes d'une femme. Vous êtes sa mère, j'abdique le droit que j'ai de commander, et je vais plaider ma cause comme si c'était à moi d'employer la prière. Écoutez-moi, je serai bref, vous allez savoir en face de qui la volonté de Dieu vous a mise. » La duchesse releva sur lui ses beaux yeux qui remerciaient timidement. Tout répit à cette heure était précieux pour elle. Saladin se recueillit un instant, puis, après avoir économisé son souffle comme il faut faire pour avaler un sabre de taille inusitée, il parla ainsi. Mon père, margrave ou marquis de Rosenthal, Silésie prussienne, occupait un haut grade dans l'armée et s'était marié à une noble polonaise, la princesse Belowska. Il habitait Posen, où il était second gouverneur militaire pendant que je faisais mes humanités à l'université de Breslau. Lors des grands troubles qui agitèrent la Pologne prussienne, mon père demanda son changement à cause de sa femme qui était parente de la plupart des chefs insurgés. La cour de Berlin refusa durement et mon père fut obligé de garder son commandement. J'avais fait un voyage à Posen pendant les vacances de 1854 pour venir embrasser ma famille. Il y avait de l'agitation dans la maison. Ma mère, qui était d'habitude une femme sédentaire, presque uniquement occupée de ses devoirs de religion, faisait de longues absences. La voiture était sans cesse attelée, et plus d'une fois j'entendis mon père lui dire « Madame, vous serez la cause de notre ruine ». Une nuit, je fus éveillé par un bruit qui se faisait dans la cour de notre maison. Deux voitures arrivèrent, l'une après l'autre, et les pas de plusieurs hommes sonnèrent dans les corridors. À dater de ce moment, ma mère reprit sa vie d'autrefois, mais mon père n'en parut pas moins inquiet pour cela. Il y avait des allées et des venues nocturnes, et l'impression que je recevais du sourd mouvement qui m'entourait était que des hôtes mystérieux habitaient notre demeure. On s'occupait beaucoup dans la ville du major général lituanien Gologin, qui, après le combat de Grodno, avait fait une trouée en avant et passé notre frontière au lieu de fuir vers le nord. On disait qu'il devait être réfugié aux environs de la ville avec son état-major. Le jour même où je devais monter à cheval pour quitter la maison paternelle et retourner à mes études, une estafette du gouvernement apporta à mon père l'ordre de se rendre chez le baron Köhler, qui commandait la province. Il n'eut pas la permission de communiquer avec sa femme, et comme je m'avançais jusqu'à la porte cochère pour le voir sortir, je reconnus qu'un cordon de fusiliers cernait notre demeure. Les choses vont vite chez nous, en Prusse, dès qu'il s'agit de conspiration, surtout quand elles ont rapport à la Pologne. Je n'ai jamais revu ma mère, qui pourtant ne passa point en jugement. On publia la nouvelle qu'elle était morte dans son lit. Mon père fut passé par les armes sur la grande place de Posen, condamné légalement par un conseil de guerre. La veille, on avait fusillé, dans la plaine, Gologin et son état-major, au nombre de 13 officiers, dont 3 colonels. Moi, je fus conduit de poste en poste par les dragons jusqu'à Aix-la-Chapelle et de là, déposé à la frontière de Belgique, avec défense de rentrer sur le territoire prussien. J'avais 18 ans, il me restait quelques Frédéric d'or en poche. Je me sentais orphelin et je ne connaissais personne au monde qui s'intéressât à mon sort. Ce n'est pas mon histoire que je vous raconte ici, madame, et je passe sur mes pauvres aventures pour arriver à ce qui vous concerne. Pour vivre, je m'étais fait comédien et je courais la province, gagnant à peine de quoi n'être pas tout nu en mangeant maigrement. C'était un soir d'été, en l'année 1857, il y a de cela 9 ans. J'allais à pied entre Alençon et Domfront, portant au bout d'un bâton mon léger bagage, qui était toute ma fortune. Les jours commençaient à être plus courts, on arrivait vers la fin de septembre. Vers 6 heures du soir, à 2 lieues d'un gros bourg où je comptais passer la nuit, dont je ne me rappelle plus le nom, j'entendis sur la marge de la route un cri plaintif, un cri d'enfant. Je m'approchai, c'était une petite fille de 6 à 7 ans qui était tombée, comme elle me dit, d'une voiture de saltimbanque, tandis qu'elle jouait sur la galerie de derrière et s'était évanouie sur le coup et n'avait pu appeler à son aide. Elle était blessée aux deux jambes assez grièvement et c'est à cause de cette blessure que je ne pus rejoindre la troupe de saltimbanques à laquelle l'enfant appartenait. Je fus en effet obligé de m'arrêter au bourg le plus voisin, où elle se mit au lit pour y rester 2 semaines. Et certes, dans la position où j'étais, personne n'aurait pu me blâmer de confier cet enfant à la charité publique, mais je suis le fils de mon père et de ma mère, qui donnèrent leur vie pour secourir des malheureux. La duchesse lui tendit silencieusement la main, elle avait les larmes aux yeux. Et puis, reprit Saladin, en s'animant plus qu'il ne l'avait encore fait, elle était si merveilleusement jolie, cette petite. Ses grands yeux bleus me remerciaient si bien que je me pris à l'aimer comme si elle eût été ma jeune sœur ou ma fille. Ah, merci, murmura la duchesse une voix étouffée. Oh, merci, Dieu vous récompensera. Dieu me récompensera, répondit Saladin en souriant, puisque je résolus ce problème de ne pas mourir de faim avec ma protégée. Dans les longues heures que je passais près de son lit de souffrance, nous causâmes beaucoup. Peut-être n'avons-nous jamais causé si bien depuis, car plus tard, à mesure qu'elle creusait ses souvenirs, elle s'égarait de plus en plus, tandis qu'à ce moment où elle ne cherchait pas, quelques paroles vraisemblables, sinon précises, lui venaient de temps en temps aux lèvres. Je sus ainsi qu'elle n'était pas née chez les saltimbanques, qu'il y avait une sorte de mur obstruant sa mémoire, au-delà duquel elle cherchait en vain à connaître le passé. Elle s'était éveillée, c'était son mot, vers l'âge de 3 ans, au milieu de gens et d'objets qui ne lui étaient point familiers. Mais cette impression avait été faiblissant à mesure qu'elle s'était habituée à ses nouveaux protecteurs. Ceux-ci n'avaient point de méchanceté, ils la battaient seulement un peu pour lui apprendre les tours de force. La respiration de Lily s'arrêta dans sa poitrine. Dans nos pays allemands, reprit Saladin, elles sont nombreuses, les histoires d'enfants enlevées par les bohémiens et les tziganes. Je connaissais bien cela et je reconstruisis aisément la pauvre histoire de ma petite amie. Seulement, comme l'esprit va naturellement vers le grand, je me figurais d'abord, à cause de l'élégance de ses formes et de sa beauté aristocratique, qu'elle devait être l'enfant de quelque grande famille. Cette opinion qui se trouvait être fausse en ce temps-là, puisque c'est seulement plus tard que vous êtes devenue une grande dame, servit du moins à faire naître et fortifier en moi l'idée de retrouver les parents de l'enfant. Nous autres Prussiens, quand nous avons une idée, nous y tenons fortement et les obstacles ne nous arrêtent point. Je vins à Paris avec ma petite amie que j'appelais Maria, du nom de ma mère. J'écrivis à Posen pour la première fois, demandant secours à des parents éloignés et à ceux qui avaient été les clients de ma famille. Je reçus de l'argent et des encouragements, car là-bas, on n'oublie pas ceux qui souffrent, et plusieurs lettres m'annoncèrent même qu'on s'occupait de faire rapporter ma sentence d'exil. Mes amis allaient trop loin, il ne me convenait déjà plus de mettre à profit leur bon vouloir. Mon idée avait grandi en moi à la taille d'une passion, et je suivais mon travail avec la patience d'un huron cherchant les traces sur le sentier de la guerre. Je passais 1 an et 1 mois à promener Maria dans Paris, lui faisant examiner tour à tour chaque objet, et surtout chaque aspect et chaque paysage. Elle ne reconnaissait rien. Ce fut le 13e mois seulement, et cela peut vous donner la mesure de ma patience, que j'obtins dans la même journée 2 chocs successifs qui furent pour moi le premier trait de lumière appréciable. Au jardin des plantes, d'abord, où jamais je ne l'avais conduite, elle me parut inquiète, incertaine. Comme je l'examinais avec un soin minutieux, je la vis rougir et pâlir. Des enfants jouaient dans le bosquet qui longe la rue de Buffon. Elle fit un mouvement comme pour courir vers eux. La duchesse écoutait avec une passion croissante, et son âme passait dans son regard qui dévorait monsieur le marquis de Rosenthal. Ce fut tout, continua celui-ci, et cela s'évanouit comme un éclair. Je fis sortir Maria par la rue de Buffon et je la conduisis aux environs, sur le boulevard de l'Hôpital et sur le quai de la gare. Je n'obtins aucun résultat. Comme nous arrivions à la place Valhubert, son regard s'éclaira vaguement. Nous traversâmes le pont d'Austerlitz et j'entendis sa respiration se presser dans sa poitrine. « Reconnaîtrais-tu quelque chose ? » demandai-je. Elle poussa un petit cri. Ses yeux dilatés se fixèrent sur une danseuse de cordes qui travaillait au bord de l'eau, en face de la rue Lacuée. « Ah, mon Dieu !» murmura Lily, dont les mains se joignaient convulsivement. Je vous fais languir, n'est-ce pas? Dit Saladin avec bonté, mais je ne puis aller plus vite que le vrai. Ce fut encore tout, et il me sembla que l'instant d'après, Maria s'étonnait de sa propre émotion. Pauvre enfant, dit la duchesse, elle était si petite. J'avais heureusement plus de patience que vous, madame, continua Saladin. Je restai frappé vivement. Je compris que ce n'était plus aux impressions de l'enfant qu'il fallait m'adresser, du moins pour le moment, mais à un système de recherche et d'investigation qui devait avoir pour point de départ son émotion d'une minute. Je me disais, la vue de sa mère éveillerait sans doute complètement ses souvenirs. Je me disais encore, comme les enfants jouant à cache-cache, « Je brûle, je suis bien sûr que la mère doit être près d'ici. » La pauvre Maria passa deux mauvaises semaines, presque toujours seule à la maison. Moi, j'employais ce temps à fouiller le quartier Mazas de Fontencomble. Un jour, en rentrant dîner, je lui dis « Bonjour, Justine ». Ses yeux s'ouvrirent tout grands, comme ils avaient fait quand nous avions aperçu la danseuse de cordes. « Bonjour, petite reine, » dit-elle encore. Elle baissa ses longues paupières bordées de soie et sembla chercher en elle-même. Puis elle me demanda « Pourquoi me dites-vous cela, bon ami ?» La duchesse, qui s'était levée à demi, s'affaissa de nouveau sur son fauteuil. L'excellent Saladin sourit encore et murmura « Madame, votre espérance est encore trompée. Vous avez cru que nous étions au bout de nos peines, et cependant, si tout eût été fini ce jour-là, le jeune marquis de Rosenthal ne se serait jamais appelé Monsieur Renaud, agent de police. »